L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle émission de la série L'Évangile sur le couple. Et nous allons aborder un point qui est vraiment, je dirais, dans la continuité de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui est la liberté. Quelle liberté le Christ nous propose-t-il à l'intérieur de cette vision sur le mariage et sur l'appel du bonheur pour le couple ?
Alors pour cela, on va essayer de prendre quelques versets de l'évangile de Jean. Et c'est assez court le texte d'aujourd'hui. « Faites-moi confiance, je reviens vers vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière.
Voilà, ces quelques phrases, on a choisi de les commenter aujourd'hui parce qu'elles rentrent vraiment dans cette dynamique qu'on a développée. Finalement, tout ce qu'on a vu de l'appel au bonheur, Alex, eh bien tout ça, nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas le faire par nos propres forces. Et donc le mot-clé de ce texte, c'est la confiance. Faites-moi confiance. Si vous avez compris que je peux faire beaucoup de choses en vos vies, mais il faut que vous rentriez dans cette démarche de confiance et d'abandon. Mais la confiance, c'est pas non plus rester les bras ballants à rien faire, on est d'accord. On prendra le temps de développer ce thème-là un peu plus tard, notamment autour de choses très concrètes liées à la conversion, comme on a déjà abordé plusieurs fois quelques éléments, on reprendra ça. Mais déjà aujourd'hui, comprendre que cette confiance, elle est chemin vers une vérité, et cette vérité est libératrice pour nous.
Tout au long du chemin qu'on essaye de parcourir, on s'est rendu compte combien nous sommes, je dirais, handicapés de l'amour. Et que le Seigneur ne prend pas cet handicap comme une limite qui est infranchissable. Au contraire, il va nous aider à la franchir, à dépasser ce péché. Et donc c'est pour ça que c'était tout le constat, rappelez-vous, de tout l'enseignement, la lecture qu'on a fait de Matthieu 19, où effectivement Jésus, face aux apôtres, a constaté qu'effectivement, c'était quasiment irréalisable de réaliser le dessein de la Genèse, le dessein de cette joie immense d'Adam et Ève. Et donc c'est pour ça que le Christ dit « Je reviens vers vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est fait, on est entre guillemets programmé, on est fait existentiellement, anthropologiquement, on est fait pour le bonheur. Mais pour goûter ce bonheur entre nous, en tant que couple, alors le passage par le Christ est absolument indispensable. Il est indissociable avec la liberté. Mais si nous choisissons le Christ, alors nous pouvons faire advenir ce bonheur auquel on n'arrive pas à accéder complètement de nous-mêmes. Et donc c'est à la fois ce don immense du bonheur qui nous est fait en tant que couple, mais c'est aussi notre liberté de le choisir ou de ne pas le choisir pour que justement nous puissions faire advenir ce bonheur.
Justement, c'est un peu quelque chose, je peux dire, contradictoire. Beaucoup, en nous entendant, doivent se dire quelle bizarrerie que parler d'Église et du Christ, finalement, ça s'associe pour eux à la liberté. Parce qu'on a en général dans la société plutôt l'idée que religion égale tout l'inverse de la liberté. Alors là, justement, je crois que c'est amusant de souligner cette espèce de contresens qu'il y a sur la compréhension profonde de la liberté dont nous parlons. De quelle liberté parlons-nous, Alex ?
Alors justement, je pense que c'est la liberté vraiment du cœur. Il faut peut-être s'appuyer sur des choses concrètes. On a l'impression, effectivement, dans la doctrine, entre guillemets, moderne, c'est « libère-toi de Dieu, libère-toi de cet opium et fais ce qu'il te plaît ». Mais finalement, le « fais ce qu'il te plaît » dans le sens, je n'ai plus aucun cadre dans lequel rentrer, auquel me référer. Quel est finalement, à ce moment-là, le fruit, entre guillemets, de cette liberté moderne telle qu'on la connaît? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit à un moment tellement d'hommes et de femmes complètement dominés par leur passion sentimentale et sexuelle. Est-ce que c'est vraiment la liberté quand finalement on voit tellement de couples? Aujourd'hui, les sociologues disent quasiment 9 couples sur 10 qui se mettent ensemble sérieusement, tôt ou tard, seront amenés à se séparer. Alors qu'on sait que c'est l'aspiration, aujourd'hui tous les sondages aussi le montrent, 9 jeunes sur 10 aspirent à quoi? Aspirent au modèle de la vie chrétienne. Un homme, une femme, qui s'aiment, qui font une famille, qui ont des enfants, qui sont fidèles jusqu'au bout de leur vie, même si jamais ils confessent pas la foi, même si ils connaissent même pas la foi, c'est ce qui est inscrit dans leur aspiration la plus profonde. Et finalement, l'expérience de la vie va faire qu'il y aura un échec. Est-ce qu'ils sont libres par rapport à ça? C'est finalement, on se rend bien compte que cette, entre guillemets, cette liberté, on fait ce qu'on veut, nous conduit de plus en plus, je dirais, à ne pas pouvoir goûter le bonheur auquel on aspire.
Je pense qu'il faut justement revenir sur cette, finalement, ce que tu dis, dans le sens, faire ce qu'on veut, finalement, c'est libérer en soi toutes ces pulsions, toutes ces passions, et certains psychologues diraient tous ces fantasmes, et finalement, en libérant dans un côté un peu désordonné, on arrive finalement à un esclavage. Et c'est ça qu'il faut arriver, et qu'on peut essayer d'expliquer davantage, parce que c'est le nœud de cette question de la liberté. Si on est esclave de ses passions, si on a besoin absolument de boire, ou de regarder sur Internet des films, ou de coucher avec quelqu'un tous les soirs, on rentre dans un esclavage qui fait que toute notre journée, toute notre énergie va être tournée sur cette idée d'assouvir cette passion, d'assouvir ce besoin. Et finalement, on n'est plus libre, parce qu'on devient complètement malmené et mené par le bout du nez, je pourrais dire, par nos envies, par tout ce qui prend des proportions immenses dans notre vie et qui nous empêche de poser des gestes libres, etc., de discerner les choses, etc., en fonction de ce qu'on a envie de faire, vraiment, réellement. Donc on tombe dans un esclavage dont le Christ seul peut nous libérer.
C'est pour ça que Saint-Pierre disait, dans une parole, il disait « Ils promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves ». Donc cette vérité, elle n'est pas simplement liée à notre modernité, au monde moderne tel qu'on connaît, au niveau de la philosophie des Lumières, etc. etc. Non, elle est liée finalement depuis tous les temps, où il y a effectivement des promesses de liberté qui sont en fait des libertés qui sont trompeuses. Et que ces soi-disant libertés, notamment sans Dieu, finalement nous conduit à une forme d'esclavage. C'est pour ça que Paul parlait de ces imposteurs hypocrites des derniers temps et qui nous conduisent à être esclaves, asservis aux éléments du monde. Et c'est pour ça que nous avons la profonde conviction, pas Alex et Maud, ça c'est pas très important, c'est que l'Église a la profonde conviction que justement la rencontre du Christ, l'accueil du Christ au cœur de sa vie mène à la vraie libération, mène à la vraie liberté. Et c'est ça qui me fait goûter de plus en plus une vie pleine et entière. C'est pour ça que Saint Paul dira, il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire la vérité. Et c'est la vérité vraiment qui nous rend libres. Et effectivement, tous ces fausses doctrines fait qu'à un moment, l'homme est balancé à tout vent de doctrine et le conduit à une maison de servitude. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment à entendre que l'évangile du Christ pour la vie de tout homme, mais l'évangile du couple pour la vie conjugale, nous conduit à une vraie liberté. Nous conduit effectivement à comprendre les écueils, à tenter avec la grâce du Christ de les déjouer. Et si nous tombons, de pouvoir nous relever. Donc c'est pour ça que nous croyons vraiment pour cette vie conjugale, que c'est vraiment que si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. C'est le sens vraiment de la parole de Paul, de l'épître de Paul aux Galates. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Si le Christ nous libère en tant que couple, alors nous serons libres de nous aimer et de ne pas être esclaves de nos passions. Quelles conséquences va avoir ma liberté que je vais avoir d'aller coucher avec l'une ou avec l'autre ? Ça me conduira, ça nous conduira justement à de graves écueils, à quelque chose qui va être une fracture dans notre vie conjugale et une fracture également vis-à-vis de nos enfants. Et ça, je veux pouvoir justement avoir la liberté d'avoir, de pouvoir avoir ces exigences, cette grâce de pouvoir continuer à t'aimer toute ma vie et de grandir dans ce bonheur.
Voilà, donc pour commencer cette première partie, on peut conclure en disant que justement cette liberté-là, c'est une liberté à laquelle nous aspirons et qu'il nous faut dans notre vie de prière, etc., on aura le temps de le développer ensemble, trouver les outils pour acquérir cette liberté. Voilà, on se retrouve dans un instant.
Voilà, rebonjour à tous pour continuer sur cette série pour l'évangile et pour le couple où nous abordons plus le thème aujourd'hui, le thème de la vérité, le thème de la vérité qui nous libère, le thème que la révélation chrétienne est vraiment celle qui nous permet de libérer notre cœur, de nous éclairer fondamentalement sur la vérité de nos vies, sur ce qui va nous montrer un chemin de bonheur libératoire.
Ouais, nous avons tout à l'heure fait allusion à cette société qui nous propose justement une libération qui est en fait un mensonge qui nous entraîne dans un nouvel esclavage, qui est l'esclavage de nos passions, de nos pulsions, et qu'en travaillant sur cette libération et donc sur la maîtrise de nous-mêmes, nous acquérons une dimension beaucoup plus profonde de la liberté. Et comme tout le monde sait, la liberté, c'est justement d'être capable de poser des choix Et quand on dit un choix libre, ça veut dire un choix libre justement de toute passion qui nous entraîne là où on ne souhaiterait pas aller.
C'est pour ça que, en préparant cette émission, on réfléchissait avec Maud et on se rappelait d'une rencontre récente que nous avons faite il y a une quinzaine de jours avec un couple. Elle est d'origine chrétienne, mais elle a perdu plus ou moins la foi. Et lui est d'origine d'une autre religion. Il se dit athée. Et pourtant, c'est un couple qui vivait une profonde détresse. Et c'était un peu un jeu de circonstances qu'on a amené à les rencontrer et à parler en profonde vérité. Et l'un et l'autre dévoilaient, par leur ressenti existentiel, les vérités de la révélation chrétienne. Notamment parce que, par un concours de circonstances, elle avait été amenée à accueillir un enfant alors que lui, il ne voulait pas. Et l'autre l'avait invité à avorter, à rejeter cet enfant. Et elle, mais ça l'avait traversée complètement de part en part. Et savait comment celui que j'aime peut-il me demander de supprimer la vie en moi. Et non seulement ça avait été une détresse pour cet événement-là, mais après, elle en avait vidé complètement, je dirais, le goût de vie. Et inversement, cette expérience de détresse pour cette femme l'avait conduit à un moment à tromper son mari avec un autre homme. Et cet homme, alors qu'il ne croit en aucune religion, qu'il est athée, etc., mais l'expérience de l'adultère de son épouse l'avait aussi fracturé complètement de part en part. Donc, un couple homme et femme qui ne confessent pas la foi, qui ont quitté, qui ont leur propre philosophie, qui sont vraiment complètement dans le monde, eh bien, ils expérimentaient, par la négative, si on peut dire, la vérité fondamentale. La vérité fondamentale concernant toute la doctrine de la vie telle que le proclame l'Église et toute la vérité de la fidélité, quelle qu'elle soit, et qu'un homme et une femme, quand ils sont ensemble, eh ben c'est pour la vie, ça ne peut pas être pour un contrat à durée déterminée.
Oui, c'est justement qu'à chaque fois que dans un couple, on essaye de faire grandir la vie sous toutes ses dimensions, on est dans un sentiment, je dirais, de croissance, de construction. Et l'Église, qui ne cesse de répéter cet appel à la vie, le fait parce qu'elle a le souci justement du bonheur et de la vraie libération du couple. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que, en dehors de toute référence, si je puis dire, culturellement judéo-chrétienne ou je ne sais trop quoi, la question n'est pas là. Elle est sur l'essentiel de ce qui se passe dans le cœur de l'homme et de la femme, et dans cette interaction et ce choix d'ensemble construire un projet de vie, que l'Église a une parole à apporter qui est une parole qui libère. Au lieu de condamner, elle libère parce qu'elle redit là où est la vérité. Et c'est un chemin d'espérance que de reconstruire en sachant où on va et en sachant ce qui libère de justement ce qu'on a appelé des choses de confort, de se laisser faire par les choses qui ont l'air d'être le plus simple, le plus facile, le plus satisfaisant immédiatement, et qui finalement n'assouvit pas et brise quelque part en profondeur.
Et c'était très frappant, Maud, de cette rencontre de ce couple. Nous avions un homme et une femme qui, en plus, qui s'aiment profondément. Mais être vraiment fracturé, d'être des plaies vivantes, d'être vraiment mais à pleurer, mais amèrement, et s'en rendant compte, mais que les deux expériences fondamentales qu'ils avaient vécues étaient de profonde détresse, mais que finalement, par la négative, ils découvraient vraiment qu'était la vérité. Et c'est en cela aussi où le Christ est libérateur, c'est que non seulement il nous conduit à comprendre quelle est la vérité, mais en plus, il nous conduit à la vivre. Et à l'accueillir, parce que de nous-mêmes, même si jamais ils se rendent compte des choses, ils se rendent bien compte, ce couple, que de nous-mêmes, ils n'y arrivent pas. Et donc à ce moment-là, c'est là où nous pouvons introduire à la notion du Dieu sauveur, que Dieu vient nous annoncer l'évangile, la vérité, mais il nous apprend également à la vivre, cette vérité. Donc c'est pourquoi tout l'évangile est véridique, libératoire. Le Christ nous a libérés pour la liberté. Il nous conduit vers la liberté. Ce couple qui souffre tellement sera libéré quand il l'aura vraiment accueilli pour trouver dans le Christ, dans l'Esprit Saint, la force de pouvoir justement rentrer dans cette fidélité, de pouvoir rentrer dans ce respect de la vie, dans cet abandon à Dieu. Et c'est là où on se rend compte que dans un monde qui a rejeté l'Église, qui a rejeté la foi, si on va vraiment à la racine des choses, à la racine de l'expérience humaine, existentielle et conjugale, alors véritablement, on en vient à découvrir combien cet évangile n'est pas fait simplement pour les bons cathos et les bons chrétiens, mais il est fait pour tout homme. Cet évangile, l'évangile, sa vérité, son côté libératoire, il n'est pas fait simplement pour les pratiquants, il est fait pour tous les hommes. Et d'abord, dit Jésus, d'abord pour les pécheurs, d'abord pour les malades, d'abord pour justement ces couples qui souffrent.
I need you like the rain.
Justement, je trouve que ça renvoie à cette parole que j'ai toujours trouvée mystérieuse. Mon joug est léger. Et je me demandais à quoi ça faisait référence, cette histoire de joug. Et en fait, quand on cherche dans la parole, il est dit et bien souvent, le Christ vient nous libérer du joug de l'esclavage. Et le joug de l'esclavage, ça rappelle quoi? Ça rappelle le peuple hébreu qui était sous l'esclavage de Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'appel de Dieu est venu le chercher de son esclavage pour l'amener à la liberté. Et il a attiré le peuple en dehors d'Égypte. Bon, il faudrait reprendre toutes les histoires de ce peuple hébreu. Mais en tout cas, je trouve que cette idée-là est magnifique. C'est-à-dire qu'il va libérer du joug qui pèse sur nos épaules. Et le joug de l'esclavage, si c'est plus Pharaon, c'est nos Égyptiens, nous, c'est-à-dire toutes nos passions, toutes nos pulsions, toutes ces contraintes du monde qu'on se met sur les épaules. Et là, il y a une libération. Je me rappelle d'un jeune garçon qui était en train de découvrir à quel point il pouvait se libérer d'habitudes néfastes. Et il avait grandi quasiment de 10 cm, on avait l'impression que ses épaules s'étaient déployées. Et il y a là cet appel à quitter nos Égyptiens, qui est très fort et qui résonne à travers toute la Bible.
Quitter nos Égyptiens et traverser la mer Rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, Moïse a entendu pour lui, a entendu pour son peuple, « Je vous libère et je vous conduis à la terre promise ». Et ça, c'est la promesse de la libération. Et la libération, c'est pas simplement d'avoir quitté les Égyptiens et traversé la mer Rouge, ça va être aussi toute la traversée du désert. C'est-à-dire que cette libération, elle va se concrétiser au fur et à mesure. C'est pour ça que souvent nous utilisons cette formule, cette image du peuple hébreu dans le désert. On s'en est beaucoup, je dirais, servi dans l'éducation de nos enfants. Et nous le faisons aussi beaucoup en mission. C'est que le Seigneur nous a fait une promesse. Il nous conduit à la terre promise. En tant que couple, il nous conduit à la terre promise. Est-ce que nous l'accueillons? Jusqu'à dire à un moment, oui, on est prêt, Seigneur, à te choisir. Jusqu'à quitter notre pays, comme Abraham, et à aller vers cette terre promise.
Alors ça, c'est un point important, c'est que justement, quand on décide d'aller vers la terre promise, on a cette appréhension. Je sais de quelle prison je pars, mais où vais-je aller? Les barreaux de la prison sont plus sécurisants quand on les connaît que l'inconnu qu'il y a dehors, qui est la liberté. Et c'est vrai qu'il y a une certaine appréhension. Et on entend dans la parole de Dieu à certains moments, les Israéliens, enfin les Hébreux dans le désert, qui râlent en se rappelant des oignons d'Égypte qu'ils mangeaient. Et pourtant ça les faisait pleurer. L'esclavage les faisait pleurer, mais au moins ils savaient qu'ils avaient au minimum des oignons. Donc ce risque que nous avons à prendre, c'est de quitter tous ces Égyptiens derrière nous, traverser la mer Rouge. Pourquoi? Parce que nous avons la vision de la terre promise. Nous savons que ce bonheur est pour nous. Et du coup, on va assumer les risques de ce départ et sans se retourner en arrière sur nos oignons d'Égypte.
Et c'est là où la foi est un trésor. Parce que nous avons vraiment cette promesse que nous avons accueillie. Et à ce moment-là, le Seigneur nous conduit au jour le jour, et c'est toute la question où la manne nous est donnée au jour le jour, pas pour deux jours, pour un jour, sinon elle pourrit, et c'est là aussi où la nuée nous conduit. Et ça, cet accueil de cette promesse, cette libération, c'est un immense cadeau. Donc on espère vraiment, en cette fin d'émission, que vraiment chacun de nous aura cheminé sur cette question que le Seigneur veut véritablement nous rejoindre pour nous libérer. Et que c'est son attente, que là où nous en sommes, il veut nous conduire à une vraie liberté. Il veut conduire notre couple à une vraie libération, à quitter nos Égyptiens pour nous conduire à une terre promise. Chacun de nous, Jésus nous attend en sa terre promise. Et ça, c'est une très très grande bénédiction. Allez, bonne semaine et on se retrouve à la semaine prochaine à la même heure.
Retrouvez Alex et Maud Loriot-Prévost dans leur livre en trois volumes, L'Évangile pour le couple, aux éditions du Jubilé. May the grace of our